Bonjour Hugo.
Bonjour Gueno.
Voilà, bienvenue chers auditeurs à ATC 107.5 et WRDIWA.fr.
Il y a une télé à gagner.
Oui, une télé en carton. Voilà.
Non, c'est une vieille télé, tu sais, avec un gros cul, quoi.
Ouais, c'est ça. Oui, parce que nous faisons partie de la religion cathodique. Et donc, voilà, nous, les écrans plats, on n'aime pas ça.
Attends, ça te plaît le tube, hein?
Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc des studios Ghibli, de Hayao Miyazaki et forcément d'Hazao Takahata. Tu voulais parler un petit peu des studios Ghibli, mon cher Hugo ?
En même temps, c'est le sujet. Alors,
super, eh ben c'était
merci.
Extra.
Oui,
non, franchement,
j'ai fait court
ou pas ? Non, ce blanc a été superbe.
Oui, c'est un studio d'animation japonais produisant des dessins animés. Le logo de ce studio est un Totoro. C'est une créature évoquée dans la production Ghibli, personnage de fiction créé en 1988 avec mon voisin Totoro. Le film a été un tel succès que le personnage est devenu l'emblème. Donc c'est un esprit légendaire de la forêt ressemblant à un gros ours.
Oui, et puis en fait, le petit détail, c'est que l'un des personnages, la petite fille Mei, en fait se trompe et elle l'appelle un troll. Logiquement, en japonais, le troll se prononce Toruru. Elle a dit Totoro. Donc voilà, un gros succès puisque je crois que d'ailleurs le générique est devenu une comptine des enfants japonais.
Suivant les sources d'un animateur, donc un dessinateur, le studio n'arriverait pas à faire un personnage aussi populaire que le Totoro, donc, et comme Disney avec son Mickey Mouse. Donc le nom Ghibli vient de l'italien. Il désigne un vent chaud provenant du Sahara. C'est une dérive de l'arabe Ghibli. Avec un Q, je crois.
Ouais, c'est Ghibli. Ça, oui. Oui, parce qu'il y a des prononciations forcément à l'italienne et à la japonaise qui sont
donc,
évidemment.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les aviateurs italiens utilisèrent l'élégant Caproni Bergamaschi Can 309. Donc, c'est un avion, pour les gens qui n'auraient pas compris, qui s'appelait donc Ghibli, comme avion de patrouille reconnaissance. Hayao Miyazaki, connaissant ces détails, a choisi ce nom pour ses studios. Les studios Ghibli doivent donc jouer un rôle d'éclaireur dans le secteur de l'animation japonaise et y faire souffler un vent de nouveauté. Il a été créé en juin 1985 par Hayao Miyazaki et Hisao Takahata et par la compagnie Tokumi Shoten. Ça, c'est plus dur. Hein.
Oui, voilà, ah bah ça, oui.
Éditrice du magazine sur l'animation Animage.
Voilà, oui, le Toshio Suzuki, qui était journaliste à ce magazine, est devenu le producteur, le chef, l'ancien président du studio Ghibli. C'est là aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, le manga est quand même surtout, avant tout, littéraire.
Tu vas un peu plus loin, donc je vais finir
mais vas-y,
avec
vas-y.
Un petit
Non, mais c'est juste...
Oui, d'accord. Votre parenthèse, toujours, votre éternelle parenthèse.
Toi et tes retours. Hein.
Oui.
Ouh !
En pratique, donc, l'équipe du studio Ghibli existait déjà lors de la création du film Nausicaa de la Vallée du Vent en 83. La particularité de ce studio est de se concentrer sur les longs métrages d'animation dans un pays où ce sont surtout les séries TV, donc télé, et les OAV qui sont favorisées. Donc OAV, c'est-à-dire animation vidéo originale. On note aussi, donc c'est tout, les OAV, en fait, c'est tout ce qui part après sur les Blu-ray, enfin les DVD et compagnie.
Voilà,
parce qu'il y a beaucoup de films aussi japonais en long métrage qui ne sont pas sortis en France.
Voilà, hein.
On note aussi une grande exigence concernant la qualité des films produits, qu'elle soit aussi bien donc, dans la technique, avec la beauté du dessin et de l'animation, que la qualité scénaristique, alors qu'elle est souvent médiocre chez d'autres studios dans le but de réduire les coûts. Dans les premières années, seuls les deux, comme tu disais, les deux réalisateurs à l'origine de la création du studio Ghibli réalisaient leurs films, mais peu à peu, ils laissent la chance à des auteurs plus jeunes comme Mochizuki et Kondo. On note dans beaucoup de films produits par ce studio une valorisation des principes de l'écologie, une volonté de voir l'homme et la nature vivre en harmonie. Donc le 23 juillet 1996, Disney a obtenu l'exclusivité des droits de distribution à l'étranger des films des studios Ghibli. Sauf que, donc pour faire un petit aparté, là, pour le dernier sorti, là, Colline aux Coquelicots, c'est G-Kids qui a récupéré les droits de distribution à la barbe de Disney.
Yes. Bah, disons qu'en plus, c'est assez bizarre. bizarre parce que c'est vrai qu'on a souvent comparé Miyazaki à Walt Disney en disant que c'était le Walt Disney du Japon.
Il aimait pas ça. Hein.
Et il aimait pas du tout ça parce que lui, au contraire, il trouve que Walt Disney a tendance à faire des dessins animés un petit peu infantilisants et qu'il y a cet humour qui est fait pour les adultes alors que lui, il se met au niveau de l'enfant et c'est pour l'apprendre à grandir.
Ce qu'il aimait choisir les Disney, tu sais, c'est les Silly Symphony.
Oui, tous les petits cartoons qu'on voyait au début, là, quand est apparu le fameux Mortimer, que Mickey Mouse, avant de s'appeler Mickey Mouse, s'appelait Mortimer.
Tu voulais dire un mot sur les deux auteurs que j'ai cités, là, Kondo et Mochizuki.
Ça, c'est pour l'anecdote. C'est vrai que Yoshifumi Kondo avait été pressenti pour remplacer Miyazaki, mais qu'il est décédé prématurément et qu'il a obligé, évidemment, Miyazaki à arrêter sa retraite.
Donc moi, je vais juste dire un petit mot avant. Donc Ghibli, il y avait la Toei Animation.
Oui, tout à fait, oui.
Donc c'était fondé en 1948. C'est un studio de production de films et de séries d'animation japonais. Donc qui avec son premier film qui s'appelait Le Serpent Blanc en 1958. Ça a été créé donc, pour contrer aussi la concurrence Disney à l'époque.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'on peut dire dedans? Donc il y a de nombreuses séries que tout le monde a vues, qui a bercé notre enfance. Il y a le Capitaine Flamme.
Le Capitaine Flamme.
Goldorak, Candy, Albator. Saint Seiya, Dragon Ball.
Les Chevaliers du Zodiac.
Ouais, Sailor Moon, etc. Quoi. Donc le symbole du studio est le chat Perrault, personnage principal du film, le chat beauté, sorti en 1969.
D'accord.
Et oui, on peut dire aussi que Miyazaki y a travaillé, à la Toei. Donc il y a la Sunrise aussi, fondée en 1972. C'est un studio d'animation où on peut voir les séries comme Nicky Larson, Cowboy Bebop, je sais pas si tu as vu ça.
Oui, oui, très bien celui-là.
Et la saga Gundam. Donc eux, c'est vraiment les séries télé quand même. Hein.
C'est l'empire du manga quelque part. C'est-à-dire qu'il y a création de personnages, on crée des produits dérivés, ce qui est toutes ces petites statuettes qu'on voit dans certains magasins, ce qu'on appelle les boutiques pour geeks. On est dans cet univers entre bande dessinée, enfin, techniquement, parce que il y a quand même une différence entre la bande dessinée européenne et,
les
mangas japonais. Donc effectivement, et puis maintenant chinois, je sais que les Chinois commencent à se lancer dans le produit et que ça aussi, ça marche beaucoup. Parce qu'en fait, techniquement, les mangas, c'était surtout ces tout petits bouquins qu'on pouvait lire, puisque quand même, c'est des grandes villes. Donc il y avait beaucoup de métro et donc c'était des petits bouquins qu'on pouvait lire dans le métro, le temps du trajet.
Une petite dernière, la Madhouse, qui a été créée en 17 octobre 72, c'est toujours pour créer des films et séries d'animation. Donc dedans on peut trouver Ninja Scroll, Vampire Hunter, Bloodlust, et eux aussi ils ont créé beaucoup des longs métrages. Hein. Parce qu'il y a Perfect Blue 1998, il y a Memories 1995, Metropolis 2001,
oui celui-là je connais,
Tokyo Godfather 2003 et Red Line en 2000.
Ouais.
Il y en a d'autres aussi.
Oui, il y en a d'autres, il y a des Ghost in Shell aussi qui sont très connus, et Evangelion aussi. D'accord. Voilà. Donc Hayao Miyazaki. Donc
une légende, une figure au Japon. Hein.
Ouais, tout à fait. Donc il est né le 5 janvier 1941 à Tokyo au Japon. Donc il est presque inconnu en Occident en dehors des cercles d'amateurs d'anime et de manga jusqu'à la sortie internationale de Princesse Mononoke en 1999. Ça a été aussi une grosse consécration parce que je veux dire le voyage de Chihiro a reçu un ours au festival de Berlin et c'est le premier film d'animation quand même qui a reçu ça.
Un ours ou un Totoro?
Un ours. Non, parce qu'il ne faut pas confondre. Il est le deuxième fils d'une famille de quatre garçons et sa petite enfance a été marquée surtout par un Japon dévasté par la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on verra beaucoup dans son œuvre. Et son père, Katsuyi Miyazaki, était alors directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique appartenant à son frère, l'oncle de Hayao, et qui produisait les gouvernes des Zéro, les fameux avions de chasse japonais. Et effectivement, c'est là aussi qu'il faut noter, c'est que son père avait piloté un Ghibli, le nom du studio.
Ah d'accord.
Quoi. Et la mère d'Hayao était une femme très intelligente et plutôt réservée. Et en fait, elle a souffert de la tuberculose vertébrale, qui donc l'obligeait à rester alitée. Et ça, on le voit dans l'œuvre Mon voisin Totoro, qui est quand même quelque part l'œuvre la plus autobiographique de Miyazaki. Toute cette passion de l'aviation se reconnaît dans beaucoup, beaucoup de ses œuvres, parce que je crois qu'il n'y a que deux films, c'est la Princesse Mononoke
qui reste...
se passe que sur Terre, et l'autre, sur, pognon sur la falaise, qui se passe donc évidemment dans la mer. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a le château dans le ciel, le château ambulant, puisque le héros Aoru vole, dans le voyage de Chihiro, il y a le dragon, donc la Chihiro voyage sur son dos. Il y a quand même toujours ces histoires de création d'avion, puisque quand même dans beaucoup de ses œuvres, dans le château dans le ciel, c'est le plus imposant, hein, toutes ces machines volantes. D'ailleurs, on se demande toujours comment elles peuvent voler, parce que franchement, moi quand je les vois avec toutes leurs hélices ou leurs ailes, c'est vrai que ça fait quand même assez bizarre.
Dans Porco Rosso aussi.
Ouais, et dans, oui, mais enfin ça c'est sûr que Porco Rosso, effectivement, puisque là, et d'ailleurs c'est l'œuvre la plus réaliste de, comment ça s'appelle, de Miyazaki. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans tout ce qui est film. Donc, fuyant la guerre, la famille Miyazaki déménage souvent. Pendant sa dernière année de lycée, qu'il va découvrir le premier film d'animation en japonais en couleur, le fameux Serpent Blanc de l'animateur. Alors là, merci les gars, on va se faire un petit plaisir buccal. Yabushita Taaji, des studios Toei, et qui était inspiré d'un conte populaire chinois. Et là, ça a été une révélation pour lui, il s'est dit, ben voilà, c'est ça que je veux faire. Il va se lancer dans cette carrière et commencer en 1963 comme intervalliste au studio Toei. Donc il se fait d'abord connaître pour son travail sur, on va se faire plaisir, Gariba no Ushu Ryoko, wow, en 1965, pour lui c'est un sort de petit échec, puisqu'il trouve que la fin est non satisfaisante, donc il en propose un autre qui est accepté et incorporé au film. Et après un entraînement de 3 mois, il est affecté au film Les Fidèles Serviteurs Kana, et puis à la série télévisée du studio Ken l'Enfant Loup, concurrent du fameux Astro le Petit Robot, Osamu Tezuka, qui est quand même très connu en France, hein, puisque c'est, je crois que lui aussi qui a fait le fameux film Metropolis. Donc on reconnaît ces fameux personnages avec les gros nez, les gros yeux et les gros nez surtout. Mmh. Et voilà, et après, quand quelques troubles syndicaux éclatent en 1964 au sein du studio, Miyazaki prend alors la tête des manifestants et devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs. Ça se ressent un peu aussi dans l'œuvre aussi, oui. La colline au coquelicot.
Même donc dans ses premiers films, puisqu'il était un peu marxiste.
Oui, tout à fait.
Il avait tendance à idéaliser les travailleurs.
Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la fameuse chanson « Le temps des cerises » dans Porco Rosso.
À nous chanterons le temps des cerises, et guerre au Seigneur, et mère le moqueur, seront tous en fête.
Et à cette époque, il rencontre Akimi Ota, qui est également animatrice au studio et qui deviendra sa femme en 1965. Ils auront deux enfants, Goro et Keisuke.
Non, c'est pas grave ça, Gwen.
Keisuke est un artiste ayant fait des gravures et figurines en bois, dont l'une apparaît dans le film Si tu tends l'oreille.
Alors oui, c'est important.
C'est-à-dire que là, autant les Walt Disney ont fait, et surtout les Dream, les Pixar, c'est des films avec beaucoup de références, autant l'univers de Miyazaki, il y a très, très, très peu de références. Je crois qu'il n'y a que deux films qui font beaucoup de références, c'est Kiki la petite sorcière et Porco Rosso. Le fameux moteur de
avec
l'avion.
De la pub. Dans Porco Rosso, il y a beaucoup de pubs.
Oui, voilà, il y a la fameuse gitane, le moteur Ghibli et le
quand
fameux...
tu fais le plein, Shell.
Oui, et puis le fameux camion Fiat aussi.
Oui.
Donc voilà, et puis évidemment, Miyazaki rencontre Isao Takahata et il commence à construire ce qui sera le fameux studio Ghibli. Ils vont faire un film ensemble qui est Horus, le fils du soleil, puis effectivement, après, il y aura des séries d'animation. Conan, le fils du futur, qui sera un petit peu l'ébauche de Nausicaa de la Vallée du Vent. Et puis surtout, nous, ce qu'on connaît, c'est les fameux Sherlock Holmes. C'est un Sherlock Holmes andromorphe, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il a une tête de chien. Hein.
Oui.
Voilà.
Bah, tous les personnages.
Tous les personnages. Oui, non, mais voilà.
Il n'en a pas fait beaucoup, il en a fait 6, c'est les 6 premiers, je crois, de la série.
Ouais, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une belle empreinte, parce qu'effectivement, il y a tout ce côté très européen qu'a Miyazaki dans beaucoup de ses films, et ces fameux bateaux avec des canons immenses, qu'on se demande d'ailleurs comment ça peut voguer sur l'eau.
Toutes les machines du méchant Moriarty.
Oui, mais c'est ça. Et puis oui, moi, je dirais que c'est un petit peu dans la veine, pour ceux qui sont connaisseurs, de steampunk. 78, un jeune reporter, Toisho Suzuki, récemment transféré à un nouveau mensuel, le fameux Animage, qui traite de l'animation japonaise et de l'activité artistique, appelle Takata pour lui parler de Horus, Prince du Soleil, sur lequel il comptait écrire un article. Takata lui parlera pendant une heure, mais refusera de parler de Horus, se concentrant sur ses projets plus récents. Il passe le téléphone à Miyazaki et lui parle de Horus et demande pas moins de 16 pages dans Animage.
Suzuki... 16 pages.
16 pages. Ah, donc Suzuki renonce à citer les deux dans le magazine. Mais il ne les oubliera pas, il deviendra plus tard producteur en chef du studio Ghibli et ami inséparable de Miyazaki. Donc il y a le succès de Nausicaa, évidemment, en 1983. Donc les fameux accords avec Disney, effectivement, en 96, puisque les studios Ghibli formeront le groupe Disney Tokuma, chargé de distribuer tous les longs métrages Ghibli, hors DVD, dans le monde, y compris le Japon, mais en excluant le reste de l'Asie.
Tu peux nous donner un mot sur ses influences ? Faire un petit cocorico ?
Il y a Antoine de Saint-Exupéry,
voilà, c'est
et
ça.
Jean Giraud, Moebius. Il a dessiné des couvertures des éditions japonaises de,
oui,
de Vol de Nuit et de Terre des Hommes.
Voilà, donc, d'ailleurs, comme il aime bien les avions, donc
c'est, oui, tout à fait. Oui. Et quant à Moebius, ils se sont influencés réciproquement et ils étaient amis. Et d'ailleurs, la Meunière de Paris a tenu une exposition sur leur travail intitulée Miyazaki et Moebius, deux artistes dont les dessins prennent vie.
D'accord, tu en sais les choses.
2004 et avril 2005. Vous voyez, il y a aussi d'autres influences littéraires qui sont donc Lewis Carroll, Diana Wynne Jones et Ursula K. Le Guin, qu'on connaîtra pour les contes de Terre-Mère, quand,
oui,
même, quelque part.
Du fiston.
Voilà, et le fameux aussi Roald Dahl, qui fut donc pilote à la RAF pendant la Seconde Guerre. D'ailleurs, on le voit dans la scène de Porco Rosso, dans laquelle apparaît un nuage de pilotes morts, qui,
oui,
est inspiré de « They shall not grow old », ils ne vieilliront jamais. Et je pense, parce que Roald Dahl était aussi scénariste sur l'un des James Bond. Hein.
Fort, hein. Tu aimes rebondir.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, pour dire un peu les sujets récurrents de l'œuvre de Miyazaki,
mm-hmm.
Donc on peut retrouver dedans, donc, comme tu disais, la guerre, la machinerie et l'écologie. Que Miyazaki dénonce l'inutilité de la violence et la bêtise humaine. Ses personnages montrent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais côté, il met des choix à faire. Il dépasse le cliché du héros face aux méchants, en général. Mm-hmm. Donc ces personnages posent des choix dont la finalité n'est pas le plus important. Certains des premiers films de Miyazaki avaient des méchants, vraiment méchants. Château de Cagliostro et voilà, Château dans le ciel aussi.
Oui, le Château de Cagliostro, c'est la version un peu Arsène Lupin, c'est ça.
Oui, c'est Edgar de la cambriole.
Ouais, ouais.
Parce que c'était en série aussi.
Voilà, c'est ça, et que nous, on connaît sous le nom d'Edgar. Voilà.
Doc sont remarquables par l'absence totale de personnages méchants, comme dans...
Guy la petite sorcière.
Et mon voisin Totoro. Mmh. Donc, il y a aussi, dans toutes ces films d'animation, le respect des personnes âgées, comme cela est présent dans la culture japonaise. Si la personne âgée est méchante, il y aura toujours...
Oui, parce que c'est ce qu'on voit dans le château ambulant, c'est que la fameuse sorcière des Landes, qui a quand même été méchante avec Sophie, et ben finalement, elle la recueille chez elle.
Donc, dans tous les films de Miyazaki, quel que soit le sujet, on trouve toujours un endroit de paix éternelle,
mmh,
loin de la civilisation, calme, où seul le bruit du vent, des oiseaux et de l'eau vient troubler le silence. Un décor pur et verdoyant, sans trace de l'homme.
Oui, parce qu'il y a le fameux Laputa, donc le château dans le ciel, qui est vraiment très 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 silencieux. Il y a aussi dans la princesse Mononoke des endroits où les petits sylvains, là, les petits esprits de la nature sont gardiens.
Donc c'est un féministe convaincu. Les sociétés qui valorisent les femmes réussissent mieux. Place importante dans ces films. Enfin, je parle des personnages féminins.
Oui, tout à fait.
Rôle majeur ou même un rôle principal avec la princesse Mononoke.
Après, le château ambulant.
Dans Porco Rosso, celle qui tient le...
Gina.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté des femmes, alors que ce soit des petites filles comme Kiki ou Mei dans Mon voisin Totoro ou Satsuki, aussi sa grande sœur, c'est vrai que c'est quand même toujours des éléments très féminins. Et je pense que ça vient de l'influence de sa mère.
D'accord. Donc ils s'entendent donc pour venir aux personnages féminins, ils sont à la fois forts et vulnérables, craintifs et téméraires.
Oui, parce que là aussi, je peux rappeler, parce que la princesse Mononoke-san, c'est vrai qu'elle est convaincue de son combat contre Dame Eboshi, mmh, et en même temps, quelque part, c'est vrai que le fait que ce prince arrive et lui déclare son amour, après elle est complètement perdue, quoi. Mmh.
Donc comme tu disais, il y a des liens filiaux présentés par Miyazaki, mmh, sont presque exclusivement de type mère-fille,
mmh,
et il met souvent en scène la rupture de ce lien, un pas vers l'âge adulte et la transmission d'un patrimoine de la mère à la fille, comme dans, comme tu disais, Kiki la petite sorcière.
Et Kiki la petite sorcière et le royaume des chats aussi, parce qu'il y a le rapport entre la mère et la fille. C'est exclusivement féminin. D'ailleurs, c'est très, très curieux de se dire qu'il y a souvent, les méchants sont quand même des méchantes. C'est quand même des nanas qui veulent changer le monde. Alors, il y a ce côté-là. C'est-à-dire qu'effectivement, l'héroïne est plus du côté de la nature, du respect. La méchante est quelque part plus de cette société qui écrase l'être humain, quoi. Enfin, du moins, et qui veut changer l'image du monde. Puisque la fameuse aussi méchante dans Nausicaa, la vallée du vent, veut détruire la nature, enfin, du moins la domestique.
D'accord. Il explore donc souvent les mêmes thèmes centraux, la relation de l'humanité avec la nature, l'écologie et la technologie, ainsi que la difficulté de rester pacifiste dans un monde en guerre. Les protagonistes de ces films sont le plus souvent, donc comme on disait, là, je fais un retour, comme tu aimes bien, de jeunes filles ou femmes fortes et indépendantes, et les méchants ont des qualités qui les rendent moralement ambiguës, comme le kami de la religion
shintoïste.
Donc ces œuvres sont tout aussi accessibles aux enfants qu'aux adultes. Au Japon, il est considéré comme l'égal d'Osamu Tezuka.
Oui, Tezuka, c'est le fameux pour le petit robot.
Voilà. Et en Occident, on le compare souvent à Walt Disney. Bon. Toutefois, Miyazaki reste modeste et explique le succès de son entreprise par la chance qu'il a eue de pouvoir exploiter pleinement sa créativité.
Oui, c'est vrai qu'il est super modeste, parce que je crois que c'est à la Mostra de Venise, il avait reçu un prix.
Oui.
Au début, il ne voulait pas trop l'accepter.
Non, parce qu'on lui a dit, on lui a dit, je crois que c'était pour
l'ensemble de
son œuvre. Il a dit que ça doit être un prix pour les vieux.
Et ouais, c'est ça. Et comme il a vu que Clint Eastwood l'avait accepté, et
qu'il croyait que c'était que pour les morts.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais il a accepté quand même modestement. Il est vrai.
D'accord.
Mais je pense que de toute façon, son œuvre brille par une modestie.
Oui. Donc, il reçoit, donc, comme tu disais, les honneurs du magazine Time en 2006. Donc, comme l'une des personnalités asiatiques les plus influentes de ces 60 dernières années.
Isao Takahata. Bah, sa notoriété en Occident vient principalement de son film Le Tombeau des Lucioles, sorti en 88. Donc lui, il est né à Ise.
Ils sont tout jeunes, c'est vrai.
Et non, ils sont plus tout jeunes. Justement, c'est ça qu'ils cherchent, la relève. Et donc lui, il est né à Ise, au Japon, et le 29 octobre 1935. Donc il étudie la littérature française à l'université de Tokyo. Il découvre aussi les poèmes de Jacques Prévert, et met aussi son travail avec Paul Grimaud, par exemple, sur le scénario de La Bergère et le Rameneur, qu'on connaît désormais.
Le roi et l'oiseau.
Qui réalise son premier long métrage, donc le fameux Horus, Prince du Soleil, en collaboration donc avec Hayao Miyazaki. Ce film n'ayant pas...
168, ça.
Ouais. Mais il n'a pas obtenu le succès attendu. Donc les producteurs, comme tu disais, privilégiaient surtout la création télévisuelle. Donc il va s'attaquer à Lupin 3, donc qui est plus connu. Donc,
Garde la Cambrienne.
Voilà. Et puis à la trilogie Heidi, Marco et Anne, la maison au pignon vert, qui sont tous les trois réalisés entre 1974 et 1979, et qui constituent pour eux un âge d'or, voilà, même si leur collaboration s'est terminée avec le dernier épisode. Leur amitié persiste néanmoins, et la collaboration prend alors une nouvelle orientation. C'est-à-dire que Miyazaki dirige et Takahata réalise.
Ils s'entraident l'un l'autre dans Conan, comme tu disais, le fils du futur. Et Miya l'invite à rejoindre le studio Ghibli.
Donc, il réalise donc son premier film pour le fameux studio Ghibli en 1988, donc Le Tombeau des Lucioles, qui est quand même un film, moi je trouve, à part. Il en a fait trois autres depuis. Mais alors, contrairement à Miyazaki, Takahata, lui, ne dessine pas. Il se considère avant tout comme un réalisateur. Les sujets des films traités par Takahata sont très variés. Alors, tu as Le Tombeau des Lucioles, qui est un drame de guerre, plutôt réaliste. Pompoko, qui tend vers le burlesque, en présentant ses fameux tanuki. Donc on parlera plus tard sur les films. Et puis il y a aussi Goutte à Goutte aussi, qui est un film là aussi très réaliste. Mais là, on parlera effectivement de tout ce qui est film.
Non, mais c'est juste pour dire que donc le plus souvent Takahata s'inspire d'une œuvre préexistante, comme le roman d'Akiyuki. Il était où le gentil Tiyuki ? Où il était le gentil Titoutou ? Akiyuki, voilà, tu m'as nommé K, donc pour le Tombeau des Lucioles, et celui de Kenji Miyagawa pour Goshu le violoncelliste, ou encore de l'univers des mangas Souvenirs Goutte à Goutte,
ou
mes voisins les Yamada. Il peut également développer une idée originale comme pour Pompoko, la guerre des Tanaki. Voilà, donc il a été producteur, on peut dire, en 84 de Nausicaa de la vallée du vent, et en 96 de Château dans le ciel.
Voilà, c'est ça.
Tu vois, il n'a pas été que dessinateur.
Je pense que la base quand même de leur lien, c'est cette complémentarité, notamment avec Suzuki. Et voilà, justement, je voulais arriver à mon quatrième, c'est le fameux Joe Hisaishi, qui est quand même le compositeur, de son vrai nom Mamoru Fujisawa, puisque quand même il a fait la musique pour Nausicaa, pour Le Château dans le Ciel, Mon Voisin Totoro, Kiki la Petite Sorcière, Porco Rosso, Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Château Ambulant et Ponyo sur la Falaise.
Ah, quand même.
Ah oui, oui. Et moi, je pense qu'effectivement, un film de Miyazaki sans Joe, c'est pas ça. Parce que comme Miyazaki aime beaucoup ces moments de paix, de calme, et c'est vrai que cette musique-là renforce justement ces moments-là. Moi, ça me rappelait une autre paire connue aussi pour les films et la musique, c'est Sergio Leone et Ennio Morricone. Parce que c'est vrai qu'un film, l'un sans l'autre, eh ben, ça ne marchait pas. Tu te rappelles ces fameux duels ? C'est vrai que oui. Sans la musique, quelque part, ça tombait un peu à l'eau. Le travail de Joe Hisaishi, c'est vrai que pour moi, est quand même très important dans l'œuvre de Ghibli.
Surtout quand on connaît un peu l'œuvre de Miyazaki, qui adore le culture du détail. Enfin, il pouvait reprendre des dessins, je crois. C'est
et ben moi, c'est...
Parce que lui, il faisait tout à la main, en fait.
Oui, hein. Oui, mais c'est ça, c'est le truc. C'est... Genre, je ne me rappelle plus sur quel film ils avaient dû engager des jeunes. Eux, ils font tout en 2D. C'est ces fameux dessins faits au détail près. Et c'est pour ça qu'effectivement, Le Voyage de Chihiro, La Princesse Mononoke, par des chefs-d'œuvre. Moi, ça me rappelle quand même Stanley Kubrick. Si la scène était mauvaise, eh ben, on devait reprendre. Donc, Miyazaki, c'est ce qui fait aussi sa force, c'est ce qui fait aussi sa faiblesse. Parce qu'il a quand même été plusieurs fois à la limite de la banqueroute.
Donc, on peut parler de La Relève ?
Oui,
parlons de la. C'est un film avec Clint Eastwood et. Non, pardon, excusez-moi. C'est Goro Miyazaki.
Goro Miyazaki, donc le propre fils. De...
Oui, qui a 45 ans. Qui est né en 67 à Tokyo, au Japon, est un réalisateur de films japonais qui au départ n'était pas ça. Après avoir obtenu son diplôme en agriculture et sciences de la forêt à l'université, il obtient donc un poste en tant que consultant en aménagement urbain, oui, parce qu'il est architecte à la base. Hein. Il prend part à d'ambitieux projets architecturaux et des parcs boisés urbains. Sa vie prend un tournant lorsqu'en 98, il reçoit des demandes de la part des producteurs Toshio Suzuki, merci, lui offrant la possibilité de diriger le musée
Ghibli.
Bravo, de Mitaka. Après de nombreux refus, il finit par accepter le poste en 2001. Ce faisant, il entre directement dans le studio d'enregistrement de son père. Donc Goro a toujours refusé de suivre les traces de son père jusqu'en juin 2005, où le producteur général Suzuki le persuade de réaliser quelques planches et des storyboards du 15e film des studios Ghibli. Il est compte de terme que Hayao a projeté de réaliser depuis plus de 20 ans. Après avoir observé ses esquisses, Suzuki lui relègue la direction du film. Cet acte s'inscrit dans la recherche de successeurs, comme on disait, de Miyazaki et de Takahata, réalisateurs piliers de Studio Ghibli. Une recherche amorcée dès la fin des années 90 avec la réalisation de Si tu tends l'oreille,
voilà, tout à fait,
par Yoshifumi Kondo, jusque-là animateur pour les studios. Donc satisfait, Miyazaki, père, annonce sa retraite après la réalisation de Princesse Mononoke en 97, parce que toi t'as parlé de 99, mais ça c'est la sortie en Europe. Mais la mort brutale de Kondo, oui, parce que ça aussi il y a eu plusieurs épisodes. Je prends pas la retraite.
Oui, non, mais non, c'est pas. C'est-à-dire que Princesse Mononoke.
Attention,
lui a demandé...
c'était un aparté.
Voilà, c'était un aparté. Oui, parce que Princesse Mononoke avait été un très très gros travail. Et donc, lui, il avait dit aux journalistes, c'est le dernier film que je ferai comme ça.
Oui.
Et eux, ils ont compris, je ferai, c'est mon dernier film tout court.
Oui, ils ont coupé, quoi.
Et eux, ils ont coupé.
Comme
ils
font, quoi. Ils aiment bien.
C'était sa retraite, alors que peut-être.
Mais la mort brutale de Kondo l'oblige à revenir au studio en 2002. Nouvelle tentative avec la réalisation du Royaume des Chats par Hiroyuki Morita. Mais malgré sa récente déclaration, Miyazaki revient 2 ans plus tard avec le Château Ambulant.
Voilà.
Hayao n'était pas d'accord pour que son fils Goro devienne réalisateur car celui-ci manquait d'expérience. Pendant la réalisation du film, ils ne se sont pas parlé. Malgré tout, le jeune Miyazaki était déterminé à achever le projet le 28 juin 2006 lors de la première. Contre toute attente, il est présent, enfin le père. Lors de la projection durant laquelle il n'adressa pas même un regard à son fils, il est sorti au bout d'une heure. Après la représentation, il déclare à la télé, donc le père, un film ne se résume pas seulement aux sentiments et qu'il n'est pas encore adulte en parlant de son film. Donc 2006, il y a les Contes de Terre-Mère. 2011, donc il fait La Colline aux Coquelicots.
Qui je trouve qui est quand même bien mieux.
Tu l'as vu, toi ?
Oui, je l'ai vu.
D'accord. Adaptation du manga éponyme dessiné, La Colline des Coquelicots. Dessiné par Takahashi et Tsunami. Non, c'est pas ça. Ah non, et scénarisé par...
Tsunami, il faut éviter au Japon en ce moment.
Et scénarisé par Sayama. Donc c'est un film qui a souffert du tsunami justement, puisqu'il devait faire face pour, je crois que les ordinateurs, ils pouvaient que s'en servir la nuit à cause des coupures donc d'électricité. Donc on peut dire que les faiblesses du scénario, voire insuffisant dans son animation, un brin paresseux et une certain manque de rythme. Quoi. Il a été quand même très très mal accepté par la critique, La Colline aux Coquelicots.
Ah ouais. Mmh. Ah ouais, ouais.
L'histoire donc, se déroule au Japon à la veille du JO de 1964 à Tokyo. Donc Umi est une élève de lycée à Yokohama. Le père d'Umi est mort.
Il est disparu.
Sur une barge de débarquement pendant la guerre de Corée. Umi a une frère et une sœur. Et après, elle va aller vivre avec sa grand-mère dans une maison qui sert également de maison d'hôte et accueille également régulièrement plusieurs personnes.
Oui, parce qu'elle s'occupe de tout le monde. Quoi.
Oui.
Voilà. Et puis après, elle connaît un garçon qui est amoureux d'elle, mais apparemment, ils ont un passé commun.
Oui, ça c'est quand même assez triste des fois, c'est une animation quoi.
Oui, ben voilà, justement, donc on va tourner...
J'ai bien rebondi là, hein.
Ouais, on va commencer les films. C'est vrai que c'est souvent des films tristes, mais je pense que l'œuvre de Miyazaki, surtout, peut-être moins celle de Takahata, est quand même empreinte d'une certaine nostalgie.
Et là, je pense toujours, comme tu disais tout à l'heure, là, donc il n'a jamais connu les bombardements, mais il avait 4 ans à l'époque, mais...
Oui, mais...
Il y a toujours eu, tu sais, ceci...
Les récits de sa mère et de la famille, quoi.
Toujours la peur de la bombarde.
Ben voilà, mais regarde, parce qu'en 1983, Nausicaa de la Vallée du Vent, c'est ça quand même. C'est cette histoire où apparemment des robots immenses en 7 jours ont détruit le monde, oui. Et que depuis c'est la forêt qui est devenue l'ennemi de l'humanité, oui. Et qui détruit toute la population humaine, et qu'une princesse décide d'utiliser un de ces robots du passé pour détruire justement la nature, et qu'une seule vallée est sauvée parce que justement il y a du vent qui s'empêche les fameux spores de venir dans cette vallée. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu nostalgique, c'est-à-dire qu'effectivement on est nostalgique du temps passé, c'est-à-dire qu'on est dans un truc, dans un milieu où il faut se protéger de la nature cette fois-ci, alors que dans d'autres il faut protéger la nature. Mais il y a quand même, Nausicaa quand même apprend à ce qu'il y a un certain équilibre à avoir justement avec ça.
Je crois que c'était, il n'était pas encore sous Ghibli, tu vois.
Ouais, oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que c'est le pré-Ghibli, quoi.
Ouais.
Je pense que c'est un peu la pierre d'édifice, c'est-à-dire qu'ils se sont construits les deux, Takahata et Miyazaki, et surtout Miyazaki. Et après, effectivement, en 1986, il y a le château dans le ciel. Et là aussi, c'est nostalgie, parce que cette princesse Chiita, c'est-à-dire qu'elle est quand même l'héritière d'une nation qui était quand même capable de faire voler des châteaux grâce à des pierres magiques.
Oui.
Et que le fameux Muska, qui est lui aussi un héritier, tente de chercher pour restaurer évidemment le château de Laputa. C'est l'un des quasiment uniques méchants masculins. Et puis cette fameuse Dora qui est la mère des pirates, qui est entourée évidemment d'une bande de chenapans, quoi. Les garçons sont effectivement assez idiots, quoi. Sauf évidemment le héros de l'histoire, Pazu, qui va aider Chiita.
Chiita ?
Chiita, oui.
Ah bon.
Fait penser évidemment à la fameuse Chiita de Tarzan. Et aussi la Piuta, puisque quand même, si tu lis, ça fait la Piuta quand même. Donc eux, ils ont prononcé la Piuta. C'était quand même issu du voyage de Gulliver, hein, de Jonathan Swift, cette fameuse île, puisque effectivement, Gulliver s'est retrouvé dans ce fameux château volant. En 88, mon voisin Totoro, donc l'histoire de Mei et de Satsuki. Alors là, pour l'histoire, Mei, ça veut dire le mois de mai.
Oui.
Et Satsuki, ça veut dire aussi le mois de mai, mais en japonais. Donc c'est ces deux sœurs qui sont mises à la campagne parce que leur mère est malade.
Oh oui, la relation filiale.
Voilà, et en fait, Mei va rencontrer le fameux Totoro. Et puis, il y a aussi l'histoire du chat bus, le Pakenenko, qui est issu des légendes japonaises. C'est ce fameux chat qui pouvait prendre l'apparence de ce qu'il voulait. Et donc, évidemment, il a pris... celle d'un bus, il est génial ce chat aussi. Mon voisin Totoro et Kiki la petite sorcière, pour moi c'est deux films qui se ressemblent beaucoup, parce qu'en fait c'est des histoires sans histoire. Je suis un petit peu, parce qu'effectivement à un moment dans Mon voisin Totoro, Mei disparaît, on part à sa recherche, mais il n'y a pas une grosse histoire comme dans La princesse Mononoke ou Nausicaa ou Le château ambulant. En 98, il y a Le tombeau des Lucioles de Zao Takahata. Alors là c'est carrément autre chose, c'est veine très réaliste.
C'est guerroyant.
C'est-à-dire l'histoire donc de Seita, 14 ans, et de Setsuko, qui a 4 ans, qui sont livrés à eux-mêmes après la mort de leur mère.
C'est super gay, quoi.
Parce que leur mère est morte lors d'un bombardement incendiaire à Kobe.
Ça finit super bien en plus.
Oui, c'est ça.
Préparez vos mouchoirs.
Ouais. Ils sont accueillis par leur tante, mais en fait leur tante les supporte pas. Donc ouais. ils s'enfuient, effectivement. Après,
sœur, elle tombe malade.
Ouais, parce qu'elle a faim. Lui, il essaie de voler de la nourriture, il se fait attraper. Et puis, il ne peut sauver sa sœur. Mmh. Et donc, c'est vrai que c'est un film très très triste. Alors,
il meurt aussi à la fin.
Et il meurt tous les deux. Mais c'est vrai que c'est un film super triste et en même temps assez lumineux, parce que c'est vrai qu'à la fin, les deux se rejoignent et voient la ville de Kobe de nos jours. Le fait de le voir, ça a été quand même quelque part un choc.
On n'est pas habitué, parce que nous, on est bercé par Disney, alors à la fin, voir tout le monde mourir,
voilà, c'est ça,
à part dans Bambi.
Après, il y a évidemment Kiki, la petite sorcière, donc c'est l'histoire de Kiki et son sa Gigi qui décide d'adopter...
Kiki fait référence à Gigi.
Bah oui. Alors là, c'est vrai que ça peut faire un peu suspect. C'est que Miyazaki a passé une journée à regarder les femmes
avec à la gare, là.
En jupe courte, et il a décidé. Et c'est vrai qu'effectivement, quelque part, c'est un peu olé olé. Mais bon, souvent dans les mangas japonais, c'est toujours un peu licencieux. Et là, elle va adopter une ville. La ville de Corico, et qui n'est pas sans rappeler Stockholm, puisque...
Oui, mais d'ailleurs, il s'était déplacé en Suède pour s'inspirer des décors.
Oui, parce qu'il devait travailler sur un film dont je ne me rappelle plus du tout, et il n'avait pas reçu les droits, mais il avait quand même été vachement inspiré par cette ville. Après, il y a les souvenirs goutte à goutte, et alors ça, tu vois, c'est dans la veine réaliste, parce que là... Cette histoire qui se passe en 82 de Taeko Okajima, qui est un employé de bureau qui s'ennuie et qui va aller s'aérer dans la zone rurale de Yamagata, et pour la récolte des fameux cartames des teinturiers. Et en même temps, elle se souvient des années quand elle avait 10 ans, en 1966, son premier amour pour un basketteur, ses premières menstruations. Et puis, c'est quand même important pour une
partie de la vie. Oui.
Et puis, ce métier d'actrice qu'elle voulait faire et qui a été brisé par son père. Et c'est vrai que là, on tombe dans une veine très, très, très réaliste des studios Ghibli, puisque effectivement je peux entendre l'océan de Tomomi Mochizuki et Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. C'est vrai que c'est des histoires très très réalistes. Alors bon, c'est vrai que Si tu tends l'oreille, il y a un petit côté fantastique quand même. Et puis en 92, le fameux Porco Rosso.
Ah là là, ça j'aime bien.
Voilà, avec l'histoire de Marco Pago. Alors Marco Pago, c'était en référence aux enfants de Nino Pago, et qui est l'inventeur de Calimero, aussi qui avait fait les fameux Sherlock Holmes. Et donc voilà, qui est un héros, donc Marco Pago, qui est un héros qui avait frôlé la mort durant la Première Guerre mondiale et qui depuis a une tête de cochon.
On ne sait pas pourquoi d'ailleurs.
Oui, enfin bon, je ne veux pas dévoiler le truc. Mais... Bon. Il se fait concurrencer par le fameux Donald Curtis, un Américain qui a été acheté par les pirates, les Mama Ayuto.
D'ailleurs, le nom Curtis, ça existait parce qu'il me semble qu'il y fait référencer le mécano là, qui a la célèbre course d'hydravion. Parce qu'à l'époque, l'hydravion était très
Je crois que c'est un avion, les Curtis. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce que Mama Ayuto, ça veut dire maman au secours.
Ah ouais.
Ayuto, Ayuto, au secours. Okay. Fameux pirate. Et puis la Fio Piccolo, qui est la conceptrice de l'avion, qui va avoir une amourette un peu avec ce Marco. Et il y a Gina qui est amoureuse de Marco.
Et c'est la mécanicienne aussi.
Oui, Fio, oui.
Là, c'est vrai. On voit encore le rôle de la femme. Elle est mécanicienne.
Oui, c'est ça. Et elle conçoit, en plus, elle a 17
ans. Elle répare même l'avion.
Oui, et en fait, dans l'entreprise Piccolo, il n'y a que des femmes. C'est les femmes qui s'occupent.
Oui, c'est vrai en plus.
Ce qui est très marrant, d'ailleurs, parce que le personnage de Donald Curtis, cette figure, si vous le regardez, les contes de Terre-Mère, vous verrez le même personnage. Le méchant, c'est la même figure.
Et je crois que la voix française, c'est Rashman.
Non, c'est Jean Reno.
Jean Reno. Il y a Rashman dedans. Ah, mais c'est lui, il doit faire le mécano. Non.
C'est celui-là où il y a des références géographiques, parce que ça se passe sous l'époque mussolinienne. Oui, mussolinienne, on dit ça, oui.
Mussolinisque.
Mussolinisme. C'est le seul film
des
où il y a des...
20-30, quoi.
Voilà, c'est ça, il y a des seules références vraiment...
Ça se passe en Méditerranée ou côté Adriatique?
Adriatique. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est les fameux pirates de l'Adriatique.
Avec toutes les petites îles, oui.
Ouais, c'est ça.
C'est juste en face de la Croatie. Quoi.
Voilà, c'est ça. Après, en 94, il y a les fameux Pompoko, avec ces fameux Tanuki, ce qu'on appelle les chats viverins, et qui ressemblent assez à des ratons laveurs, et dont Hugo voulait nous faire la part belle.
Oh, faut pas exagérer. Donc, c'est dans la mythologie japonaise, c'est l'un des yokai. Donc, c'est les esprits de la forêt. Ils sont souvent représentés portant un chapeau de paille et une gourde de saké avec un ventre rebondi qu'ils utilisent comme un tambour et des testicules de grande taille.
Tout à fait, oui.
C'est le symbole donc de la chance et de la prospérité. Ils sont souvent présents dans l'art et les contes japonais après le Moyen-Âge.
C'est une œuvre assez importante, les Pompoko, puisque c'est vraiment dans la veine écologie des studios Ghibli.
Oui, parce que c'est pour,
ces fameux tanuki luttent contre
l'humain,
les êtres humains, puisque à une époque, la ville de Tokyo était vraiment bondée. Mmh. Donc on a l'idée de créer la fameuse Tama. Et ça raconte cette histoire-là de ces fameux tanuki qui luttent. Alors c'est ce qu'ils disent un peu les tanuki au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils creusent la montagne, puis après ils construisent une ville dessus. Et là aussi, c'est vrai que c'est pas une fin très heureuse. Par contre, il y a beaucoup d'humour dans ce film.
Là, on voit que l'écologie est présente à fond. Hein.
Oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment, on a cette impression dans les studios Ghibli, c'est-à-dire qu'on lutte pour la nature, mais quelque part, on est toujours un peu perdant. Et dans La Princesse Mononoke en 97, c'est ça, parce que cette princesse San, son vis-à-vis à Ashitaka, le prince des Emishi, ça a lieu à l'époque Muromachi, se situe entre 1336 et 1573. Et c'est vrai que ce couple va pour défendre l'esprit de la forêt face à Dame Eboshi et surtout aux chasseurs de l'empereur qui sont venus là lui couper la tête à l'esprit de la forêt pour devenir éternel. Donc évidemment, quelque part, l'esprit de la nature revient, mais c'est plus le même. C'est vrai que c'est la lutte des hommes contre les...
Très beau celui-là.
Oui, il est très très beau. Alors par contre, c'est vrai que c'est un film à éviter pour les jeunes enfants.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il est assez sanglant. Après, il y a le voyage de Chihiro, donc l'histoire de Chihiro et de ses parents qui ont été transformés en cochons parce qu'ils ont mangé de la victuaille qui était dédiée aux esprits. Et donc Chihiro sera obligé de travailler au bain-douche sous l'égide de la fameuse Yubaba, référence à cette fameuse Baba Yaga russe, qui sera protégée par Haku. Et là aussi, c'est super images, parce qu'effectivement, il y a des moments de tranquillité, ce train qui glisse sur l'eau, cette musique de Joe Itachi. C'est vrai que ce film-là, il a reçu un ours au Festival de Berlin et il le méritait parce que l'histoire est très belle. Pour moi, c'est quand même quelque part un chef-d'œuvre, quoi. À le mettre à la même place que La Princesse Mononoke. En 2002, on a Le Royaume des Chats, qui est une petite histoire de Haru, une lucienne de 17 ans, qui sauve le prince Loon, le prince du Royaume des Chats. Et donc, les chats ont décidé qu'elle épouserait ce fameux prince. Il y a l'histoire aussi de Baron Hubert von Kiningen et de son copain, le chat Muta. Muta, alors c'était, paraît-il, un chat qui errait autour des studios Ghibli. Donc. Alors ça, c'est vrai que c'est une histoire, moi je dirais, de seconde catégorie. Mmh. C'est vrai qu'après Le Voyage de Chihiro, La Princesse Mononoke, c'est vrai que c'est un peu de seconde catégorie.
Les studios Ghibli, ils créent des... Au départ, là, pour revenir sur Porco Rosso, encore en retour, au début, je crois qu'il devait faire 48 minutes parce qu'il devait
oui,
être...
Oui, tout à fait, oui.
Il devait être donc, pour la Japan Airlines.
Oui, c'est ça.
Pour les vols courts.
Voilà. J'aime beaucoup. Alors, souvent en référence un petit peu à cet humour qu'avaient les Sherlock. Quoi, c'est ces histoires où ça déborde de partout, il y a ces bateaux, ces combats.
Je trouve qu'il est assez réel, quoi, en fait.
Ouais, tout à fait. En 2004, il y a le château ambulant, donc l'histoire de Sophie qui sera transformée en vieille dame par la sorcière des Landes et qui sera accueillie dans ce fameux château ambulant du sorcier Aourou, sollicité par Soliman pour combattre dans une guerre entre sorciers. L'histoire du feu aussi qui est génial, ce personnage, et aussi la moment de tranquillité sur les montagnes, cette musique là aussi formidable. Donc non, ça c'est quasiment mon préféré, le château ambulant.
Ah ouais.
Ouais, moi j'aime beaucoup cette histoire parce que ça mêle humour, ça mêle tristesse, ça mêle aventure, et aussi là comme on avait dit, Miyazaki lutte contre la guerre, puisque là aussi il y a une histoire de guerre, c'est ces engins volants qui luttent et ce que l'homme est capable de faire pour gagner, quoi. Après, le fameux Terre-mer, les contes de Terre-mer de Gorō Miyazaki, alors qui pour moi quelque part est un échec. Parce que l'histoire de Haren, le prince, du sorcier épervier et de la fille Teru. Parce qu'en fait, quelque part, les contes de Terre-mer, donc de Ursula Le Guin, c'est 3 livres. Et là, en un film, on essaye de faire les 3.
Oui.
Parce que le magicien, le méchant, qui est très féminin, comme on le retrouve d'ailleurs souvent dans les mangas, ce côté un peu androgyne. Ce méchant, on le voit déjà dans le premier livre. Là, il revient, il n'y a pas d'explication.
Oui.
Épervier avait connu une nana dans le second livre qu'on voit apparaître. Là, c'est résumé en une phrase, c'est passé dans le second livre. Et je pense que effectivement, ça a été vraiment trop court pour Gorō.
Je crois que c'est ce qu'elle a dit, non, à la sortie du film. Elle a dit, vous avez fait votre film, moi j'ai mes livres, il me semble, en tout cas.
J'ai été déçu, j'avais lu les 3 livres, et c'est vrai que, alors moi je connais, je sais qui est
qui. Ouais, tu t'attendais à...
C'est-à-dire que t'as l'impression que tout est trop expliqué, c'est-à-dire que effectivement, parce que quand tu le vois dans Le Seigneur des Anneaux, pour certains, on a lu le livre, on sait qui c'est. Il y a toujours un moment où on te dit, mais attends, il y a un personnage qui manque, mais ça, c'est pas, ça y est pas. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors, je comprends l'histoire de Goro, c'est difficile parce qu'effectivement, faire sur 2 heures, 3 livres, c'est hyper compliqué. Surtout qu'il s'est attaché surtout au dernier.
Qui manquait d'expérience.
Mais il manquait d'expérience. Après, il y a les 3 derniers, donc Ponyo sur la falaise, donc de Miyazaki, l'histoire de Sōtsuke, cette petite, faut dire, princesse de la mer qui est tombée amoureuse d'un petit garçon et qui décide, c'est pas sans rappeler la fameuse petite sirène d'Andersen. Bon, avec une chute un peu plus heureuse quand même. Moi, j'ai été très surpris de savoir qu'il était sorti en 2008. Parce que pour moi, comme il était dessiné, j'avais l'impression que c'était vraiment plutôt dans les premières œuvres de Miyazaki.
Ah oui.
Il y a un trait vraiment très très naïf. C'est vrai que ça m'a surpris de savoir que c'était dans les dernières sorties. Alors, c'est pas mon préféré, parce que là, effectivement, il est très long. C'est vrai que c'est fait plus pour les enfants, celui-là. C'est vrai que pour les adultes, il est un peu plus difficile. Je veux dire, surtout très très naïf, quoi. Moi, celui que j'ai aussi préféré, c'est celui en 2010 d'Arietti, Le Petit Monde des Chapardeurs.
J'ai pas vu.
D'Hirosama Yonebayashi. Et celui-là, il est fantastique. C'est-à-dire, je crois que c'est tiré d'un roman. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui est malade, à qui on doit faire une transplantation cardiaque, qui arrive dans une maison et qui découvre qu'il y a un petit peuple qui vit dans cette maison. Et donc, cette fameuse Arietti, qui a 14 ans, ils vont se découvrir. Et à un moment, il va y avoir une connexion entre ces deux personnages. Et c'est vrai qu'il y a tout cet petit univers qu'on adore. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette histoire-là, à se dire, mais quand tu es dans une grande maison, qu'est-ce que ce serait si tu avais quelques centimètres? Bon, pas comme Chérie, j'ai retraité les gosses, quoi. Mais ça devient tout de suite une autre façon de voir. À un moment, elle s'équipe son épée, c'est une épingle, quoi. Et c'est vrai que là
ça
aussi...
Ça fait penser un peu à Toy Story, quoi.
Voilà. Oui, oui, à part qu'effectivement, si on veut, puisque c'est quand même pas un jouet, quoi. Et puis là, aussi, notre petite française, puisque c'est Cécile Corbel qui fait la musique, qui est une harpiste et qui chante aussi, et qui s'était mise au Japon, et je crois qu'elle a eu un réel succès. Et là, la musique de Cécile Corbel et d'Arietti, il y a des passages vraiment très fantastiques, parce que c'est pas Joe Itachi, là, pour une fois, mais c'est vrai qu'effectivement, moi, je pense que Arietti sans Corbel, ça n'aurait pas marché. Et c'est vrai que cette harpiste a vraiment fait un travail fantastique sur ce film. Après, effectivement, on tombe donc dans le dernier, La Colline des Coquelicots, donc de nouveau de Goro. Alors là, c'est aussi tiré, donc tu disais, d'un manga. Alors moi, je l'ai trouvé très bien. C'est vrai, cette histoire de cet amour impossible, de cette histoire du passé, là aussi, hein, comme on retrouve dans Souvenir goutte à goutte.
Ça trouvait ça un peu niais, le scénario.
Alors moi, je dirais pas niais, je dirais long. Il y a des moments un peu longs. Après, c'est beaucoup compliqué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu fouillis. Un peu comme cette émission, j'ai l'impression. Mais. Mais non, mais c'est-à-dire.
On a fait 3 parties.
Non, mais c'est-à-dire qu'il y a ce côté-là où tu dis. Il y a elle, cette fille, ce garçon dont elle est amoureuse, sa sœur, cette pension où elle vit, dont elle s'occupe, sa vie super accomplie, son passé, puisqu'elle elle essaie toujours de retrouver son père, même si techniquement il est disparu en mer, et qu'elle rencontre ce garçon, là aussi son père a aussi disparu.
C'est beau.
Oui, mais j'ai l'impression que quelque part, il y a beaucoup trop de trucs pour une seule histoire. Parce qu'après, il y a aussi des revendications, comme ça s'appelle, syndicales des enfants.
Au film, comment dire, de KPDP un peu japonais, des fois tu t'y perds avec tous les noms.
Oui, mais c'est ça. Moi, ce qui m'a posé problème, c'était les noms.
Pour reconnaître les personnages, donc des fois.
Oui, c'est... tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de mal là-dessus à reconnaître les personnages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de noms. Moi, je trouve ça un peu dommageable, quoi. Je m'attendais surtout à un truc un peu plus fantastique. Et c'est vrai que là, de nouveau, c'est une veine très très réaliste. Il n'y a rien de fantastique. C'est beau comme film, hein. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté.
Ou pas ?
Non, enfin, moi je dirais qu'il est un peu hermétique celui-là.
D'accord.
C'est vrai que quand on est sorti, quand on a vu Princesse Mononoke, quand on a vu Le Voyage de Chihiro, le château ambulant, c'est vrai que tomber sur celui-là, c'est un peu fade.
Tu dis que la relève, c'est pas gagné, quoi.
Ben moi je dirais que c'est, voilà, surtout qu'il y a il y en a un qui est prévu en 2013, donc le conte du coupeur de bambou. Alors c'est le titre prévu, alors, je sais pas, moi on m'a parlé...
C'est quoi l'histoire ?
Je sais
pas. Qui c'est qui t'a parlé ?
Quand quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors ?
Non pas qui m'aime, mais... Voilà, et en fait, c'est l'histoire d'un constructeur d'avions pendant la Seconde Guerre mondiale.
J'ai vu, oui.
Voilà, donc c'est la
sortie... C'est autobiographique, ça. Hein.
Voilà, alors c'est vrai que quelque part, je pense que Miyazaki...
C'est un grand ingénieur japonais.
Oui, tout à fait.
Qui est très connu là-bas.
Voilà, et alors c'est le problème, c'est Miyazaki, pas Miyazaki, père, fils,
Takahata,
voilà. Ben, moi, je pense que c'est un peu le problème, c'est qu'effectivement, Miyazaki s'est quand même épuisé à faire tous ses films.
Puis il paraît qu'il a la vue qui baisse, la main
moins
agile.
Mains, voilà. Mmh. Bah,
c'est ce qu'il fait tout à la main, lui.
Bah oui, c'est ça, oui, oui. Alors, mais c'est vrai que maintenant, il délègue beaucoup, surtout à pas mal de petits jeunes. Mais c'est vrai que moi, je pense, et c'est peut-être un peu un risque que les studios Ghibli vont devoir affronter dans les années à venir, c'est qu'effectivement, le jour où Hayao Miyazaki va disparaître, ou même Hayao Takahata vont disparaître, c'est vrai que ça va être dur pour récupérer. Et moi, j'ai peur que soit effectivement Goro ne sache pas prendre la relève, soit ils vont se faire bouffer par un studio et on ne retrouvera plus ces films comme on a connu.
Ouais.
Donc moi je trouve ça vraiment dommageable.
T'as pas oublié de nous parler d'un manga, Goshu, le violoncelliste, hein ?
Non, parce que celui-là il n'avait pas été cité par le studio Ghibli. Alors je ne sais pas si c'est Takahata a travaillé pour un autre studio, puisque c'est tout à fait libre. Mais celui-là il n'était pas cité comme étant un film des studios Ghibli.
Si, mais il a été fait par Takahata.
Il a fait d'autres choses, Takahata,
oui.
Mais il n'était pas sous le sigle des studios Ghibli.
Voilà, pas que des studios qui bougent. Si vous avez l'occasion de le regarder,
oui,
regardez-le. Il est superbe.
Bah, moi je vous dis, quand on a décidé d'un peu de cette émission, j'étais content parce que c'est vrai que moi j'adore les studios Ghibli. Mais moi,
c'est le choix à Gwen.
Ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à ce cinéma d'animation japonais, pas à tout. C'est vrai qu'il y a des trucs très violents, voire pour certains un peu sexistes ou très sexuels, justement.
C'est pour ça que tu te contorsionnes ?
Non, pas du
tout. Bon.
Mais voilà quoi. Et c'est vrai que, justement, moi, ce que j'adore, c'est que, les studios Ghibli sortent
Je m'appelle Ghibli.
Ouais, d'accord, ok, super. Et ben, eux, ils arrivent à faire la part belle des choses, c'est-à-dire à vraiment faire des œuvres originales. C'est vrai qu'on est sorti d'un Japon hyper violent, puisque je voudrais aussi. C'est vrai, faire une pensée au fameux film Akira, qui a été aussi un grand choc pour le monde. Et c'est vrai, mais c'est des trucs très très violents quand même. Et
disons qu'ils n'ont pas la même, je pense, ils apportent pas pareil que, parce que c'est déjà leur histoire, hein, les mangas, tout ça. Hein.
Oui, mais tout à fait. Bah, c'est-à-dire que, oui, mais je pense que c'est un
eux,
peu.
Ils sont habitués déjà à ça.
Oui, non, mais c'est pas
tant ça. C'est le pays du jeu vidéo. C'est...
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est un peu le problème intrinsèque au Japon. C'est-à-dire que c'est une société qui est basé un peu sur l'esprit conquérant, mais quelque part un peu si, mais surtout rempli de frustration. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont figés dans des codes d'honneur, et que quelque part, ces mangas, ils arrivent à échapper
à libérer et tout ça. Ouais.
Voilà. Donc, ça porte leur frustration.
Non, mais moi, je trouve que ça change un peu des héros un peu QQQ qu'on peut voir à l'Occident. Quoi.
Ah, mais tout à fait. Mais moi, j'ai toujours été plus pour le manga que pour le dessin animé à la Dora. Parce que pour moi, infantiliser les enfants sous prétexte que c'est des enfants, moi, je ne suis pas d'accord. Ça a été aussi le travail de la télévision. Et je trouve que la télévision fait très mal son travail à proposer des dessins animés aussi débiles.
Non, mais aujourd'hui, oui, c'est débile.
Pour des enfants à 7h du matin, alors qu'il y a quand même des choses à faire pour rehausser tant leur niveau intellectuel, culturel. Voilà, moi, je trouve...
Oui, bah, après, on retombe dans la polémique de l'époque. On a reproché au Club Dorothée de balancer que des dessins animés violents.
Non, le problème du Club Dorothée, surtout, c'est que Dorothée, elle a fait des films trop violents, quoi. Je veux dire, on ne peut pas balarguer... Ça, c'est du travail que tu fais sur des années. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, leur proposer Ken le survivant ou même le Chevalier du Zodiac.
Il a été coupé version européenne.
Oui, non, il a été version... Et puis surtout les sous-titrages. Là, si vous regardez sur la page comme ça, Facebook de Arrête ton cinéma, je vous ai proposé quelques vidéos, la version française de Ken. Et là, vous verrez que ça frise le ridicule. Quoi.
C'est comme, la série japonaise Nicky Larson, il est vachement. C'était
oui,
très
mais
sexe,
voilà, c'est ça. Ben, moi, oui, non, mais ça, le problème, c'est que la sexualité au Japon est très codifiée. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire des petites Lolitas en uniforme, ralafi, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a quelque part ces histoires aussi d'attacher les filles et tout. Alors, mais il faut en prendre en conséquence. Je veux dire.
Ah, tu aimes attacher les.
Non, j'aime pas. Mais, et puis, c'est aussi ce tabou du poil aussi. Hein, parce qu'on voit très rarement les poils aussi.
Attention, cette émission dévie.
Mais non, mais ça fait partie du truc japonais. Nous aussi, on a nos trucs. Hein. Je veux dire, quand tu vois les films français par rapport au cinéma américain, bah, tu m'excuseras. Mais...
Oui, c'est vrai que Le Roi et l'Oiseau.
Voilà, tout à fait. Non, mais oui, ça dans le cinéma, dans la série d'animation. Mais moi, je parlais plutôt des films avec des personnages humains. J'espère qu'effectivement, les studios Ghibli continueront dans leur belle lancée et qu'ils nous proposeront encore d'autres chefs-d'œuvre. Après, Goro ou d'autres... l'avenir nous le dira.
C'était le but de l'école un peu de Miyazaki, de Takahata, c'est de former un maximum de jeunes animateurs pour justement assurer une relève. Quoi.
Disons que c'était le double effet Kiss Cool, quoi, parce que je veux dire, ils avaient besoin justement
de
beaucoup.
Marque.
C'est toi qui dis ça. Ils avaient besoin beaucoup de jeunes, dessinateurs, puisqu'effectivement, il fallait qu'ils réussissent à faire leur production en temps et en heure. Et donc, c'est vrai qu'ils utilisaient pas mal de jeunes dessinateurs entre 18 et 25 ans. Donc voilà, et ça a été aussi l'avantage, hein, puisqu'il y a quand même pas mal qui sont ici de l'école Ghibli.
Oui, je suis content.
Alors, cette semaine, effectivement, comme vous l'avez pu le constater, nous n'avons pas fait de
rubrique of the pastel.
Pastel, puisque nous n'avons pas eu le programme entre nos mains. Donc, c'était très difficile donc, de présenter des films, puisque nous ne savions pas ce qu'ils sortaient.
Je pense qu'il devrait sortir Rebel et Batman.
Peut-être. Voilà, donc entre le... Alors, Hugo proposait qu'on y aille avec son gilet pare-balles pour voir le Batman. et le kilt pour Rebel.
Sinon, je crois que j'ai vu aussi au ciné, il y avait l'affiche de Faust. C'est le film russe
que
j'avais parlé.
Oui, tout à fait, oui.
Qui donc après, je ne sais pas s'il passera dans cette semaine-là. Ou...
Voilà, c'est ça. Donc, on vous donnera un complément pour la settimana prossima.
Dans
comme
notre
on dit,
émission
on
complément d'enquête.
Si, voilà, là, avec le sourcil.
Et Carole Rousseau.
Voilà, Carole Rousseau, c'est son code. Alors, mon cher Hugo, qu'est-ce que tu nous proposes?
Non, j'ai proposé déjà, moi, j'avais dit Ghibli. Je m'appelle Ghibli.
Ah, c'est toi qui as proposé.
Oui. Et voilà, il s'y attendait pas, c'est le couperet.
Non,
célèbre film français.
Eh ben moi je te propose, puisque nous sommes quelque part en été.
Non, pas encore des trucs débiles. Hein.
Non, des trucs débiles.
T'es sous-doué, c'est bon quoi.
C'était pour toi. Hein. Tu es mon sous-doué à moi.
C'était poli.
Non, moi je voulais qu'on parle...
Toujours cette relation de supériorité.
Non, je voulais qu'on parle du cinéma de Pedro Almodovar.
Le cinéma espagnol en général?
Moi, non, surtout Almodovar.
Le cinéma espagnol en général?
Non, surtout Almodovar.
Donc la semaine prochaine, nous parlerons de Pedro Almodovar.
Bah, disons que moi ce que je peux dire, c'est Pedro Almodovar et un petit clin d'œil à l'Espagne. Comme ça, tu pourras faire des petits clins d'œil, voilà.
D'accord. Okay. Viva España.
Allez.
Bon, ben, au revoir.
Au revoir et à la settimana prossima.
Et bon film d'animation. Hein.
Piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí.